Bonjour tout le monde. Vous êtes en pleine forme? Ça a l'air à ça parce que j'entends des grands cris en arrière. Ça crie fort. Oui! On est en forme! Je ne sais pas si chacun de vous, vous avez sûrement pas tous lu, mais plusieurs ont déjà lu les sept paroles de Jésus à la croix. Vous connaissez? Vous connaissez les sept paroles de Jésus à la croix? Alors qu'on l'accusait, il ne répondit rien. De quoi ceux qui l'accusaient de toutes sortes de choses, il ne répondait rien. On disait, n'as-tu pas de combien de choses il porte? N'entends-tu pas de combien de choses il porte de témoignages contre toi? Toutes sortes de paroles qui ont entendu comme ça, accusé injustement par de nombreux faux témoins, Jésus ne répondit rien, pas même un seul mot. Et cette première parole qu'il a dite, c'est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Nous autres, on est là tous les dimanches matin. Moi, ça fait 43 ans que je me réjouis. Que j'entends au repas du Seigneur. Puis je réalise, après toutes ces années, qu'on ne trouve pas les mots pour dire merci au Seigneur. Remarquez ça, c'est quasiment toujours le même langage qui revient. On ne trouve pas les mots. On manque de quelque chose, on a quelque chose qu'on n'a pas rejoint, on ne vient pas à bout de comprendre exactement la totalité du salut. On ne trouve pas les mots pour remercier le Seigneur, les mots qui conviennent. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une réflexion qui, ça a l'air peut-être simple au départ, mais qui est l'auteur de votre salut? Vous allez avoir toutes la même réponse, j'imagine. J'ai un message en trois points qui reflète vraiment la vie du croyant. L'élection, l'auteur de notre salut et quatre ministères importants du Saint-Esprit. Comme premier point, en abordant le sujet d'élection, il faut reconnaître que c'est un sujet qui a apporté beaucoup de discussions. Avec la collaboration de certaines personnes, moi j'ai développé un petit dépliant qui s'appelle la théorie théologique de la prédestination et de l'élection, dans trois volets. S'il y en a qui s'intéressent, simplement qu'à venir me voir après. L'élection, c'est parti de deux systèmes théologiques. Je fais un résumé, là, je ne donnerai pas une étude sur ça ce matin. Ces deux systèmes théologiques, le calvinisme et l'arménianisme, ce sont les deux systèmes théologiques qui cherchent à expliquer la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Le calviniste, lui, trouve ses racines d'après Jean Calvin, un théologien français qui vécut de 1509 à 1564. L'arménianisme est un terme utilisé pour décrire les opinions théologiques de Jacobus Arminius, qui est un théologien hollandais qui, lui, est né 4 ans avant le décès de Jean Calvin. Vous savez, ils ne se sont jamais parlé. Mais lui, probablement, quand il a découvert ça, il est tombé à l'autre extrême. Deux opposés. Alors, le calviniste soutient la thèse que les hommes sont incapables de venir à Dieu de leur propre initiative. L'arminianiste soutient qu'ils doivent croire en Christ pour être sauvés. Ils ont un choix à faire. Le calviniste soutient que tu n'as pas le choix, c'est déjà décidé à l'avance. C'est pas toi qui décides si tu vas au ciel ou en enfer, c'est décidé à l'avance. L'arménianiste soutient que Dieu appelle tout le monde, mais qu'il y en a qui acceptent, puis d'autres qui refusent. Qui a raison? Bonne réponse. Bonne réponse. Mais moi, j'aime bien Riley. Aucun esprit humain ne parviendra jamais à concilier de façon pleinement satisfaisante la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Gardez ça, trouvez l'équilibre. Les extrêmes ne sont pas dans la vérité. C'est l'équilibre qu'il faut trouver dans ça. Dieu ne nous révèle pas des choses qu'il ne veut pas nous révéler. Il nous en a dit assez. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses sont révélées sont à nous et à nos enfants afin qu'on les mette en pratique. Quand on aura mis en pratique tout ce qu'on a compris, on pourra lui poser des questions sur ce qu'on ne comprend pas. Évidemment, mon objectif ce matin, ce n'est pas de débattre ce sujet, mais d'aborder une autre question. Si la Trinité est impliquée en ce qui concerne notre salut. Alors, les textes vont apparaître à l'écran, mais si vous préférez, vous pouvez lire dans vos Bibles. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, on lit « Conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. » Vous remarquez la Trinité là-dedans? Le Père, l'Esprit, puis le Fils. Et la version Darby nous dit que, élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance, on a été sauvé pour obéir, pas pour chicaner, pas pour commencer à débattre sur des sujets. Il faut garder notre priorité. Priorité, c'est d'obéir au Seigneur. Marcher dans ses voies. Voyez-vous, nous avons été choisis par le Père, rachetés par le Fils et mis à part par l'Esprit. Le salut véritable implique nécessairement les trois personnes de la Trinité. Voyez-vous, en ce qui concerne le Père, je fus sauvé lorsqu'il me choisit en Christ dès avant la fondation du monde. En ce qui concerne le Fils, le salut me fut rendu possible le jour où il mourut sur la croix. Mais en ce qui concerne l'Esprit, je fus sauvé lorsque j'ai reçu le Christ pour mon sauveur personnel. Ainsi, les trois personnes de la Trinité sont impliquées pour nous amener au salut. Et l'apôtre Pierre, dans son premier message, dans Actes 2, ne nie pas cette pensée-là. Vous savez, quand il y a, au chapitre 2 des Actes, après leur avoir expliqué que aux Juifs qui étaient présents, qu'ils avaient crucifié leur Messie, lorsqu'ils ont réalisé, « Hey, qu'est-ce qu'on a fait là? » Pierre, c'est marqué au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre n'a pas dit, « C'est décidé d'avance. » Pierre dit, « Repentez-vous. » Voyez-vous, il y a une responsabilité en quelque part qui nous revient. Alors, le même Dieu qui a prévu le salut a aussi prévu le moyen d'atteindre ce salut, et c'est par la prédication de l'Évangile, par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons être sauvés sans la grâce et l'élection du Père, sans le sacrifice d'amour du Fils, et sans le ministère de conviction et de régénération du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont toujours perplexes lorsqu'ils entendent parler d'élection, de prédestination. Et cet aspect trinitaire de notre salut nous aide à mieux comprendre certains mystères. Et nous retrouvons le même enseignement dans Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. » Regardez au verset 4. Le verset 4 nous dit, « En ce qui concerne le Père, j'ai été sauvé quand il m'a choisi en Christ avant la fondation du monde. » J'en savais absolument rien. Au verset 7, nous lisons, en ce qui concerne le Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce. Voyez-vous, en ce qui concerne le Fils, j'ai été sauvé quand il est mort sur la croix. Au verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Vous avez entendu, vous avez cru, vous avez été sauvés. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été sauvé en mars 1974, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a fait pénétrer sa parole en moi. J'ai entendu l'Évangile, j'ai cru l'Évangile, c'est-à-dire le message, le pourquoi que Jésus-Christ était venu sur la croix. J'ai été scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage, c'est un acompte. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai compris vraiment que je m'en allais au ciel. Mon futur, c'était le ciel. Mais le Saint-Esprit, c'est juste un acompte. Le meilleur s'en vient. Le gros morceau s'en vient. J'ai juste un acompte. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu... Vous savez, quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on est de nouveau, on reçoit aussi nos dons spirituels. On ne les connaît pas. Mais... si on chemine normalement dans la vie chrétienne, on va découvrir nos dons. Mais si on ne bouge pas, si on ne fait rien, on ne découvrira pas nos dons. On ne mettra pas nos dons au service des autres. Alors, ainsi, les trois personnes de la Trinité sont impliquées pour notre salut. Ça va jusque-là? De tout là? Alors, nous appartenons au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés et à l'Esprit qui nous habite. Ayant reçu le Saint-Esprit le jour de notre nouvelle naissance, quatre ministères importants du Saint-Esprit. Il y en a plus que ça, mais on va en regarder quatre. Et je vous inviterai à tourner dans la première épître aux Corinthiens, s'il vous plaît. Première épître aux Corinthiens. Quatre ministères importants du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 12. Or nous, à qui Paul parle à qui, là? Il parle à des chrétiens. Les chrétiens nés de nouveau. Il dit, or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pourquoi est-ce qu'on a le Saint-Esprit? C'est pour qu'on apprenne à connaître davantage Dieu, toutes les choses qui lui concernent. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, on a reçu l'Esprit de Dieu afin qu'on connaisse. Au même moment où nous sommes confiés en Jésus-Christ, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de votre héritage. Le deuxième point qu'on peut retrouver, c'est que l'Esprit sonde nos cœurs. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On comprend les choses de la nature, mais on ne comprend pas les choses de Dieu. Dieu sonde nos cœurs. Le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Des choses qu'on ne comprenait pas avant, depuis qu'on a reçu le Saint-Esprit, on les comprend maintenant, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que chaque croyant devient participant de la vie de Dieu. En devenant participant de la nature divine, le Saint-Esprit nous instruit. Le Saint-Esprit nous instruit, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Jean 14, 26, Jésus nous avait promis le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous instruirait. Dans Jean 16, 13, il avait dit que le Saint-Esprit nous guiderait, nous instruirait et nous guiderait. Et la vérité de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il est très important de noter que ces vérités spirituelles nous sont données par des mots précis. Écoutez bien ce que je veux vous dire, c'est important parce que souvent on ne saisit pas ça, puis beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à saisir ça. Je n'ai pas toujours compris ça, là. Je l'ai appris. Le Saint-Esprit m'a appris avec les années. Et si je dis que c'est important, c'est parce qu'on est en 2017, on vit dans un monde qui est de plus en plus anti-Dieu. Et il y a une vague qui s'en vient dans ce monde où on annonce de plus en plus que tu ne dois pas croire la parole de Dieu. Et c'est rendu qu'il y a des chrétiens qui doutent maintenant de la parole de Dieu. Et quand il nous arrive des situations spéciales, Satan il vient tout de suite. Tout. Il faut répondre, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit ça. Moi, il y a une petite phrase que j'ai retenue il y a quelques années. Quand Satan vient t'agacer trop souvent sur tes péchés, rappelle-y son avenir. Il sait où ça va. Il sait ce qui l'attend. Il sait ce qui nous attend, puis il veut nous mener la vie de Dieu. Mais important. Ce qui est important, c'est parce que l'Esprit, depuis qu'on a reçu l'Esprit, on a appris un vocabulaire spirituel. Et c'est pourquoi que des mots comme la justification, la sanctification, l'adoption, l'inspiration, la repentance, né de nouveau, sauvé, mettez-en, ça ne dit absolument rien à quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Moi, avant ça, on m'aurait parlé de ça. Moi, quand on m'a dit qu'il fallait que tu naisses de nouveau, c'est quoi ça? Je n'ai même pas posé de questions. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Même on m'a dit, si tu crois, tu vas avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Je pensais naturel, moi, que j'étais un terre-à-terre. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ce langage-là. Et quand on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous enseigne, il nous instruit pour qu'on apprenne ce langage-là. C'est par le Saint-Esprit que nous avons appris la signification de ces termes. En comprenant le vocabulaire de Dieu, nous parvenons à comprendre la parole de Dieu et la volonté pour notre vie. Étudier la Bible permet à l'Esprit de nous enseigner les profondeurs de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous passez, vous autres, dans la parole de Dieu. Moi, je sais que j'en passe passer. Mais j'ai toujours été frappé par Ralph Schalis. Parce que il y a un enseignement qui a toujours été donné côté finance, on se peut donner 10%. Parce que c'est les Juifs, ça. Puis la leçon 10 de EBA, on en parle, la leçon 11, c'est-à-dire, on en parle de ça. Mais Ralph Schalis, lui, il prenait 10% de son temps pour la parole de Dieu. Avez-vous une calculatrice? Il y a 24 heures, une journée, 10%, ça fait quoi? Ça fait 2,4, ça fait 2h30 par jour dans la parole. Il la connaissait aussi. Je ne sais pas le pourcentage que vous passez. Moi, j'aurais besoin d'amélioration comme tout le monde, j'imagine. Mais l'Esprit nous révèle ces choses-là. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si on veut apprendre les profondeurs de Dieu, connaître les profondeurs de Dieu, connaître, mieux connaître le Seigneur, il faut passer du temps avec lui. Et l'Esprit nous enseigne. Parce qu'on a reçu l'Esprit, on peut être enseigné à ce niveau-là maintenant. Les bénédictions de sa grâce qu'il a prévues pour nous, il nous les fait connaître par l'Esprit qui nous enseigne et qui nous instruit. Vous êtes toujours là? On y va avec le numéro 4. Esprit conduit le croyant à la maturité. Verset 14. Je trouve ça intéressant, ça, le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. On a reçu le Saint-Esprit. Et oui, le texte met en opposition personne sauvée et personne perdue. Personne sauvée, appelée spirituelle, parce qu'elle est habitée par l'Esprit. Et la personne sauvée, appelée naturelle, parce que l'Esprit n'est pas dans elle. J'étais là avant, là. On n'accuse pas personne. On ne dit pas que les autres sont... Nous autres, on est au-dessus, puis les autres sont en bas, là. Avant de recevoir l'Esprit, tu comprends naturel, c'est tout. Tu ne peux pas réfléchir spirituellement. Le langage de Dieu, les profondeurs de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça parce que tu n'as pas reçu l'Esprit. On parle souvent avec les gens qui sont là, « Vive vous autres. »« Vous autres, oui, qu'est-ce qu'il y a, vous autres? » Nous autres, c'est qu'en lisant, on a compris. Puis avoir compris, on a reçu l'Esprit. On a reçu l'Esprit maintenant, on comprend les choses de Dieu. On approfondit les choses de Dieu. Avant notre conversion, nous faisions partie des personnes naturelles. Nous connaissions que les choses de la nature. Mais quand nous sommes confiés à Christ, l'Esprit est entré en nous et nous sommes passés à un niveau spirituel. Nous sommes désormais capables de vivre dans le domaine de l'Esprit. L'homme perdu ne peut concevoir les choses de l'Esprit parce qu'il ne croit pas en elles et il ne peut les comprendre parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit. Tandis que le chrétien qui reçoit, lui, reçoit les enseignements de l'Esprit et il peut grandir en maturité. Et une des caractéristiques de la maturité, c'est le discernement spirituel. Retenez ce mot-là, je pourrais avoir reçu un message là-dessus. Le discernement spirituel. Le gros problème des chrétiens, et je fais partie des chrétiens, moi, là, c'est le discernement spirituel. On sait pas long qu'on commence à penser comme le monde. C'est pas comme ça que Dieu pense. Il pense pas comme le monde du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit, Colossiens 3? Cherchez les choses. Attachez-vous aux choses d'en haut. C'est là qu'on est connecté. Et c'est là qu'il faut aller. Pas là. C'est là. Mais notre nature, elle s'en va. Comme ça. On a besoin d'apprendre à s'en aller vers le Seigneur. Le chrétien qui grandit normalement développe son discernement spirituel et accroît sa capacité de comprendre davantage la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Avoir la pensée de Christ ne signifie pas que nous soyons infaillibles et que nous pouvons nous placer à la place des autres. On est capable de penser pour les autres. C'est pas ça que ça veut dire. Avoir la pensée de Christ signifie que nous voyons la vie de la même manière que Dieu la voit. On va en venir à avoir une échelle de valeur comme le Seigneur. C'est ça le but. Avoir la pensée de Christ, ça signifie penser comme Dieu pense, pas penser comme le monde pense. C'est sérieux parce que le pourcentage dans notre vie que l'on pense comme Dieu pense, il n'est pas fort, le pourcentage. On pense bien plus comme le monde pense. Puis on réagit bien plus comme le monde réagit. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, je ne nommerai pas le nom, mais j'étais avec un... Lui, il avait deux petits bonhommes, il a 7-8 ans, puis le petit gars, il venait d'avoir un bicycle, puis tout content. Il dit, « Papa, papa, il dit, quand on va aller au ciel, vas-tu pouvoir emmener mon bicycle? » Il pense comme ça, hein? On s'en va au ciel. Vas-tu pouvoir emmener ci? Vas-tu pouvoir emmener ça? Vas-tu pouvoir trouver ci? Vas-tu retrouver ci? Non. Ça, c'est comme ça. Pensez-y une fois. À chaque fois qu'on réagit, on est toujours en train d'analyser selon ce qu'on comprend autour de nous. Dieu ne pense pas comme ça. C'est complètement différent. Alors, la Trinité pour notre salut. En ce qui concerne le Père, j'ai été sauvé quand il m'a choisi en Christ avant la fondation du monde. En ce qui concerne le Fils, j'ai été sauvé quand il est mort pour moi sur la croix. En ce qui concerne l'Esprit, j'ai été sauvé le jour que j'ai cru. Et depuis ce moment-là, le Saint-Esprit demeure en moi, il sonde mon cœur, il m'instruit, il me conduit. Pas simple le salut, hein? C'est complexe le salut. C'est complexe notre salut. C'est pas pour rien qu'il est écrit dans 1 Pierre. En lui, vous aimez sans l'avoir vu et vous croyez sans le voir encore. Vous croyez au Seigneur, vous autres? L'avez déjà vu? Il y a des gens qui vont nous poser cette question-là. L'as-tu déjà vu? Non. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, mais je crois en lui sans le voir. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, c'est quoi la foi? La foi, c'est croire sans voir. J'entends la parole, je crois la parole, je ne vois rien. Je crois la parole, puis je mets ma confiance. Je vais vous donner une illustration. Peut-être les plus jeunes, c'est... Essayez de vous imaginer un petit peu, là. J'ai déjà été jeune, puis quand j'étais jeune, j'ai vu ça même plus vieux. J'ai vu ça chez Legador dans les années 80, il y avait encore ça. Les maisons ancestrales, on ne faisait pas une fondation comme aujourd'hui. Hein? On faisait un trou, on appelait ça une cave. Hein? Parce que ça, c'est convexe, puis ça, c'est concave. Alors, on faisait un trou, on appelait ça une cave. On mettait des pierres autour, puis on mettait des gros bims de bois, puis on bâtissait une maison là-dessus. Avec les années, on développait au sous-sol un genre de chambre froide. Alors, à l'automne, on faisait du canage et on allait mettre des légumes, des canages, on allait placer ça en bas. Là, on parle des années 1915-1920, il n'y avait pas d'électricité. Lorsqu'on descendait en bas pour aller chercher quelque chose, il faisait noir. Un jour, il y a un père de famille qui se prépare pour aller au sous-sol, pas au sous-sol, mais ouais, dans la cave, parce que c'était pas un sous-sol. Il décide d'aller dans la cave pour aller chercher quelque chose. Patates, carottes, je ne sais pas quoi. En tout cas, il va chercher ça. Et il va chercher. Puis quand il revient, parce que la façon dont c'était arrangé, là, c'est qu'il y avait une porte à peu près trois pieds par trois pieds. Puis on ouvrait la porte comme ça. Puis là, on avait un trou. Puis on descendait, il y avait des marches, puis on allait au sous-sol. C'est un père de famille, il descend bas. Il va chercher quelque chose, puis quand il revient, lui, il est en bas, il fait noir. Mais il regarde sur le bord, en haut, là, puis il voit sa petite fille de 3 ans qui est là, sur le bord. Elle, elle regarde en bas, mais elle voit rien. Alors le père dit, « Saute dans les bras de papa. » Mais papa, je ne te vois pas. T'es où? Papa est ici. Saute dans mes bras, je vais te prendre. Est-ce que vous sautez ou vous ne sautez pas? Elle va-tu sauter ou ça ne sautera pas? Pourquoi qu'elle va sauter? C'est ça. Si elle a confiance à son père, elle a entendu sa voix, elle a reconnu sa voix, si elle y fait confiance, elle va sauter. La foi, c'est ça. Elle a sauté parce qu'elle croyait que son père disait vrai. Et spirituellement, notre père nous parle. Il faut croire ce qui est là. Il faut croire la parole de Dieu. Ça, c'est une petite illustration, mais j'aimerais vous ramener sur la réflexion du début. Avez-vous de la difficulté à trouver les mots pour remercier le Seigneur pour votre salut? Pas trop facile de trouver les mots pour remercier le Seigneur, les mots qui conviennent. Je vais vous faire écouter un chant de Yves Baron. Vous allez voir, les paroles vont apparaître à l'écran. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots qui conviennent. On va revenir après. Moi, je ne commencerai pas à chanter parce que la dernière fois que j'ai chanté, il restait 2 personnes dans la salle. Il y en a un qui était sourd, puis l'autre était aveugle, il cherchait la porte pour sortir.
Amen.
On n'a pas toujours les mots qui conviennent. Hein? On ne trouve pas les mots qui conviennent. Oui, oui. On va prier.